Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse, Le Devoir et Le Saint-Jeannois. Au programme, l'école québécoise a besoin d'une révolution. Avaler des couleuvres plutôt que des toasts au beurre de peanut. Une longue présence afro-canadienne au Nouveau-Brunswick. Et la fatigue des jours. Bonne écoute!
L'école québécoise a besoin d'une révolution. Un texte de Joël Boucher, retraité de l'éducation, paru le 5 janvier 2023 dans la presse. De retour d'un séjour à Helsinki, Joël Boucher, ex-enseignant et directeur d'école, s'est intéressé au système d'éducation finlandais qui propose une approche différente de l'école québécoise. Lorsqu'il est question des mauvais résultats scolaires d'un élève, l'esprit populaire nous dit, qu'on en ait conscience ou non, que les choses sont ainsi et qu'on n'y peut rien. Ce fatalisme bien ancré cache mal notre manque d'ambition collective. Invoquer le sophisme frivole de la défavorisation ou de la multiethnicité pour expliquer nos résultats décevants, cela friserait la malhonnêteté. Les causes sont ailleurs. Au Québec, nous sommes à des années-lumière de l'enseignement finlandais, centré sur le plaisir d'apprendre. Comment se rapprocher de cet idéal? Commençons par abolir les évaluations avec ces bulletins chiffrés à date fixe et concentrons-nous sur l'essentiel, en l'occurrence l'émergence naturelle du plaisir d'apprendre. Ensuite, quelles sont les pistes de solutions pour rendre l'école vivante aux yeux des enfants pendant que l'imposition de la tâche boulimique décourage un trop grand nombre d'enseignants à y poursuivre leur carrière? La décentralisation comme moteur de fonctionnement. En Finlande, bien que le ministère de l'Éducation insiste parfois sur des pratiques qui ont fait leurs preuves, la nature très décentralisée du système éducatif laisse beaucoup de latitude aux écoles. La différence est attribuable à la liberté dont jouissent les municipalités en matière de gestion, où chaque école décide de quelle façon elle dépensera les sommes qui lui sont allouées, ce qui explique également l'efficacité de nos budgets, précise Pasi Salberg, ambassadeur du système éducatif finlandais. Vous avez bien lu, les centres de services scolaires n'existent pas en Finlande. Les écoles appartiennent aux municipalités, mais elles sont financées par l'État. Des économies d'échelle certaines, à ne pas en douter, avec une structure gouvernementale en moins. Voilà une avenue à explorer lorsqu'on examine l'exemple d'un pays qui s'est dégagé une marge de manœuvre financière pour offrir, notamment, la gratuité scolaire jusqu'à l'université, y compris fournitures scolaires et repas chauds jusqu'à l'âge de 16 ans. Le rôle du Conseil supérieur de l'éducation. Au Québec, le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme consultatif qui a pour fonction de conseiller le ministre de l'Éducation. Or, pas plus tard qu'en 2019, le ministre de l'Éducation de l'époque avait balayé du revers de la main une recommandation de ce conseil qui réclamait l'élimination du bulletin chiffré aux primaires au profit d'un outil d'information mettant en valeur la progression des apprentissages des élèves et qui, de surcroît, serait nettement plus clair pour les parents. L'objectif consistant à mettre fin au bourrage de crâne et à la logique de concurrence entre élèves qui s'installe quand on les situe par rapport à la moyenne de groupe. Humaniser l'école passe par un fonctionnement où l'élève se compare à lui-même et par rapport à ce qu'il doit atteindre. Point. En revanche, le Conseil supérieur de l'éducation détient le dernier mot en Finlande. Les aspects pédagogiques ne relèvent pas du politique. Seul le budget est la prérogative des élus. À leurs yeux, l'éducation est trop importante pour être laissée entre les mains d'élus dont la présence est éphémère, surtout lorsqu'une vision rime avec orientation à long terme. On prend tellement l'école au sérieux dans ce pays que l'objectif premier est de permettre à chaque enfant d'atteindre son plein potentiel et de développer son estime de soi et le plaisir d'apprendre tout en respectant son rythme d'apprentissage. En effet, il y a plus qu'un océan qui nous sépare. Notre qualité de vie est intimement liée à la qualité de notre système éducatif. Une révolution s'impose en éducation, dont le premier chantier devra s'attaquer à l'évaluation outrancière qui sévit dans nos écoles. Le bulletin chiffré génère une anxiété antinomique au plaisir d'apprendre. Or, l'idée qu'un élève épanoui qui se développe à son rythme acquiert plus aisément les savoirs fondamentaux n'a rien d'une utopie de pédagogue illuminé. En effet, le bien-être de l'enfant et du personnel passe par une remise complète du modèle actuel. Si l'école a grandement besoin d'amour sur le plan physique, le personnel qui y travaille en a tout autant besoin, à en croire une statistique récente selon laquelle près de 30% des enseignants abandonnent avant même d'avoir 5 années d'expérience. Tragédie personnelle et collective, il va sans dire. Pourtant, nous savons qu'en donnant en héritage le goût d'apprendre à notre jeunesse, nous valoriserons cette noble profession, créant ainsi un cercle vertueux où le milieu enseignant évoluera dans un meilleur environnement pour transmettre sa passion, la connaissance. C'est pourquoi le Québec doit s'offrir rapidement un sommet sur l'éducation pour mieux saisir les causes de l'état de santé inquiétant de notre réseau scolaire. Un Québec qui se mobilise pour devenir, à l'instar des pays scandinaves, un chef de file en matière d'éducation. Ces pays ont su mieux que quiconque prendre conscience que l'école est l'institution la plus efficace pour réduire les inégalités sociales et favoriser l'épanouissement des adultes de demain. Prioriser le développement des cerveaux, comme c'est le cas en Finlande, est inéluctable et pour y arriver, l'enseignement doit se situer au sommet de la valorisation des professions dans une société de savoir. Et si l'école, qui cimente la cohésion sociale, devenait non pas un, mais le projet de société? Est-ce trop ambitieux? C'était « L'école québécoise a besoin d'une révolution », un texte de Joël Boucher paru le 5 janvier 2023 dans la presse.
Avaler des couleuvres plutôt que des toasts au beurre de peanut. Un texte d'opinion de Thierry Lebeau, chirurgien urologue, paru le 22 décembre 2022 dans Le Devoir. J'étais au poste des infirmières l'autre jour quand le téléphone a sonné. Il était 15h50. C'était pour aviser qu'il fallait 2 TSO, temps supplémentaire obligatoire, à 16h. Elles étaient 2 infirmières, les yeux brumeux à implorer de ne pas rester encore ce soir. J'étais une nouvelle fois témoin de cette violence ordinaire dans nos hôpitaux. Il faut arrimer cette dure réalité des unités d'hospitalisation à celle des urgences. Le personnel des étages déjà à bout de souffle, qui fonctionne à coups de miracle depuis des mois, devra dorénavant les multiplier pour assurer le nouveau plan de surcapacité. Non seulement les infirmières des étages sont-elles déjà trop sollicitées, elles devront désormais assurer le suivi de patients installés dans les couloirs. Pour pallier le sempiternel problème d'engorgement des urgences, on viendra puiser dans les ressources déjà inexistantes des étages. La surcapacité n'amuse personne. C'est une approche pénible pour tout le monde qui rend le travail à l'hôpital encore plus difficile. Il est assez troublant de l'avoir présenté comme une « solution ». J'ai lu avec intérêt la bienveillante lettre du ministre de la Santé, Christian Dubé, datée du 4 décembre et qui s'adresse à tous les Québécois. Je ne peux qu'en saluer l'ouverture et le souhait senti d'améliorer les choses. Mais je note une certaine déconnexion du terrain. Par exemple, si l'ouverture des cliniques d'IPS, infirmières praticiennes spécialisées, est intéressante, En quoi aide-t-elle la crise des urgences actuelles? Quand on parle d'une occupation des civières de 150%, on ne parle pas des patients de la salle d'attente. On parle des patients déjà vus par les médecins et pris en charge. On parle de grand-papa Jean-Guy qui a nouvellement reçu un diagnostic de cancer de la prostate métastatique et qui fait maintenant l'influenza et a besoin d'oxygène. On ne parle pas de Nicole, 45 ans, qui a un rhume depuis 4 jours et qui n'a pas de médecin de famille. Jean-Guy ne sera jamais redirigé vers la clinique d'IPS. Nicole le sera, et c'est très bien. À la fin de la journée, le taux d'occupation de l'urgence sera encore de 150%. La salle d'attente sera moins achalandée, mais les malades sur civière y seront toujours. On nous annonce également 2 hôpitaux privés dans l'Est comme solution au désengorgement. Ce qu'on dit moins, c'est qui y travaillera et qui s'y fera traiter. Le propre du privé est d'être rentable. On y traitera donc des patients en santé qui ne resteront pas hospitalisés trop longtemps et qui ne nécessiteront pas de traitements onéreux, implants, matériel et équipement, hospitalisation prolongée. Nicole sera heureuse de s'y faire opérer pour sa hernie ombilicale dans un environnement moderne et propre. Le personnel sera heureux de rendre service dans un environnement moderne et propre. Jean-Guy, quant à lui, sera hospitalisé dans un hôpital vétuste mal ventilé et traité par des infirmières fatiguées, si elles ne sont pas déjà parties traiter Nicole. Dans un monde aux ressources humaines limitées, il est difficile d'imaginer faire fonctionner en parallèle ces 2 systèmes, du moins actuellement. Le mois de décembre rime avec grippe, COVID et engorgement des urgences. Il marque également le retour de Ciné-Cadeau et de la programmation des fêtes de Télé-Québec. J'ai revu avec bonheur La Grande Séduction et me suis mis à rêver que nos gestionnaires avaient pris le temps de le faire également. Il y a de quoi s'inspirer pour rendre l'hôpital attrayant. Imaginons un hôpital où l'humain est en son centre. Il y aurait un jardin communautaire pour les patients ambulants et le personnel, une salle de sport, une piscine. Dans notre crise des ressources humaines actuelles, il faut oser investir pour attirer. Sachant qu'on vient de distribuer, depuis la fin 2021, 6,7 milliards de dollars en chèques, a-t-on vraiment les moyens de ne pas investir dans notre système de santé? Soyons concrets. Les fonds consentis à la construction du nouvel hôpital Maisonneuve sont de 2,5 milliards de dollars. La nouvelle évaluation du coût s'élève à 4,2 milliards. Avant même de commencer, donc, on planifie couper dans tout ce qui rendrait cet environnement de travail agréable et humain et qui risquerait d'attirer ou de retenir son personnel. J'ai également revu avec bonheur Astérix et Cléopâtre. J'ai eu un pincement au cœur en voyant les légionnaires romains quitter le champ de bataille en boitant. « Engagez-vous », qu'ils disaient. C'était « Avaler des couleuvres » plutôt que des toasts au beurre de peanut, un texte d'opinion de Thierry Lebeau, paru le 22 décembre 2022 dans Le Devoir.
Une longue présence afro-canadienne au Nouveau-Brunswick. Un texte de Jonathan Poirier paru dans le Saint-Janois du Nouveau-Brunswick. Non daté. Afin de souligner le mois de l'histoire des Noirs, le Saint-Janois consacre un dossier spécial à rappeler quelques moments marquants de l'établissement des personnes de race noire dans le sud du Nouveau-Brunswick. Nous vous ferons, en plus, découvrir des personnalités marquantes. Dans la communauté francophone de Saint-Jean, plusieurs personnes proviennent de pays d'Afrique dont le français est une langue courante. Bien qu'ils soient peu nombreux au Nouveau-Brunswick, les Canadiens d'origine africaine sont présents depuis très longtemps dans notre province. Rappel d'une histoire méconnue. En 2020, l'organisation New Brunswick Black History Society célébrerait ses 10 ans d'existence. Affiliée à l'organisme communautaire PRUDE incorporé, Pride of Race, Unity and Dignity Through Education, Celle-ci retrace et documente des siècles d'histoire peu connus du grand public. Pour Ralph Thomas, coordinateur de projet chez New Brunswick Black History Society et président de Prude Incorporé, ce qui a rallumé sa flamme de retracer l'histoire des Noirs loyalistes en Atlantique est son expérience au conseil d'administration du village historique de King's Landing. Il déclare « Lorsque j'étais dans le CA de King's Landing, il n'y avait rien sur l'histoire des Noirs. Nous savions que la famille Gordon, dont la maison était située à Fredericton, était d'origine afro-américaine. Nous savions qu'il y avait un certain intérêt de la mettre en valeur. Et ce, malgré l'absence de plan de mise en œuvre. Puisque la vraie maison était en trop mauvaise condition pour être déménagée, nous avons travaillé sur un projet qui a été approuvé pour la construction d'une réplique. Celle exposée à King's Landing est identique parce que nous avions à notre disposition les plans de construction de l'original. Deux vagues d'immigration. Se donnant le titre de la « ville des loyalistes », Saint-Jean a accueilli un grand nombre de Britanniques loyaux à la reine d'Angleterre lors de la Révolution américaine de 1775 à 1783. Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, une caractéristique peu connue des loyalistes est qu'ils étaient composés d'environ 10 % de personnes noires. Ces loyalistes noirs, qui se sont établis dans la région vers 1783, étaient des esclaves ou des personnes affranchies. Ils l'avaient été en échange de leur service pour l'Empire britannique dans ses combats contre les rebelles américains. Une deuxième période d'immigration noire a eu lieu entre 1812 et 1815 durant la guerre anglo-américaine de 1812. Durant ce conflit, l'Empire britannique a utilisé la même technique contre les Américains. Promettre aux esclaves noirs de les affranchir s'ils donnaient leur allégeance à la reine. Selon Ralph Thomas, de nombreux Afro-Américains ont accepté l'offre de combattre les Américains en échange de leur liberté et de terres promises si l'Empire gagnait la guerre. Une grande partie de ces réfugiés noirs se sont installés à Willow Grove et Loch Lomond, des endroits qui font aujourd'hui partie de Saint-Jean. Abolition de l'esclavage. Un peu plus tard, en 1833, l'esclavage sera complètement aboli au Nouveau-Brunswick. Entre l'arrivée des loyalistes noirs et l'abolition de l'esclavage, le mouvement religieux des Quakers était le meilleur allié des Noirs. En effet, ce mouvement prônait le respect et le traitement équitable de ceux-ci. En refusant aux colons propriétaires d'esclaves de s'installer dans leurs terres, comme à Beaver Harbor, au sud de la province, les Quakers ont été pionniers dans la reconnaissance de leurs droits. Après ces deux mouvements migratoires importants et l'abolition de l'esclavage au Nouveau-Brunswick, une femme du nom de Harriet Tubman a joué un rôle majeur dans l'arrivée d'autres citoyens noirs dans la province. Née esclave dans le Maryland, elle a permis, aidée par les Quakers, à de très nombreux Afro-Américains de s'échapper des États-Unis. Ces derniers ont pu venir s'établir ici à partir de 1849 en utilisant clandestinement le réseau ferroviaire. Harriet Tubman a libéré tellement d'esclaves, incluant ses parents, que les autorités américaines et les propriétaires d'esclaves ont offert des primes sur sa tête. Ces primes totalisant 50 000 $, ce qui équivaut aujourd'hui à plus de 1 million de dollars. Ses exploits lui ont d'ailleurs valu d'être surnommé la Moïse noire. C'était une longue présence afro-canadienne au Nouveau-Brunswick, un texte de Jonathan Poirier paru dans le Saint-Janois du Nouveau-Brunswick, non daté.
La fatigue des jours. Un texte d'opinion de Rima El-Khoury, paru le 28 décembre 2022 dans la presse. La fatigue est le nouveau small talk, un sujet tellement partagé qu'il nous unit au même titre que la dernière bordée de neige, écrit Véronique Grenier dans l'introduction de l'essai « About, une exploration de nos fatigues ordinaires », atelier 10. J'ai tout de suite été séduite par le titre, qui sonne comme l'hymne d'une époque, mais le sujet m'attirait moyennement a priori. Surtout en décembre 2022, après près de 3 ans de pandémie, alors que tant de choses nous fatiguent, que les journées sont trop courtes et nos « to-do lists » toujours trop longues. J'ai donc commencé à lire un peu à reculons, craignant que cette odyssée de la fatigue à laquelle nous convie l'autrice soit forcément éreintante, à l'image du sujet traité. En fait, c'est tout le contraire. Cet essai de 82 pages qui dissèque avec minutie notre épuisement collectif est étrangement apaisant. En faisant l'inventaire de nos fatigues ordinaires, celles du quotidien, celles de nos vies numériques, celles de l'information, celle de la parentalité et d'autres encore, Véronique Grenier navigue habilement au confluent de l'anecdote et de l'analyse. Loin d'être une longue complainte, son essai très dense, ponctué d'intermèdes plus légers, nous offre une réflexion empathique sur notre époque à bout. Véronique Grenier, qui est professeure de philosophie au collégial et mère de 2 enfants, présumait qu'elle n'était pas toute seule à se sentir à bout. Si j'ai eu le goût d'écrire sur la fatigue, c'est que je suis fatigué depuis l'âge de 10 ans et que maintenant, quand je demande à quelqu'un comment il va, tout le monde me dit qu'il est fatigué, me dit-elle. Elle savait donc d'emblée qu'elle mettait le doigt sur quelque chose qui dépassait sa simple expérience personnelle. Mais elle était loin de s'imaginer qu'autant de gens s'y reconnaîtraient. J'espérais que ça touche les gens, mais que ça le fasse à ce point-là, ça m'a dépassé. J'avais une file au Salon du Livre de Montréal pendant 2 heures, ça ne m'était jamais arrivé. Les commentaires qu'elle reçoit de lecteurs la touchent tout autant. Les gens me disent que c'est comme si j'étais dans leur tête et que je nommais exactement comment ils se sentent. Chez d'autres, qui n'avaient pas nécessairement éprouvé toutes les fatigues que j'aborde, il y a eu un effet d'empathie que j'espérais aussi être capable d'aller chercher. En se demandant pourquoi nous sommes à ce point épuisés et quoi faire de toutes nos fatigues, Véronique Grenier tend un miroir au lecteur. En auscultant la fatigue de nos vies numériques, elle aborde la crise de l'attention propre à notre époque où on peut scroller à l'infini le fil d'actualité de nos réseaux sociaux. Elle parle de tout ce qu'on perd dans notre monde de connectivité sans fin, des frontières de moins en moins étanches entre l'intime et le public, le loisir et le travail. Tout ça est épuisant, et pour cause. Les espaces de pleine solitude, d'ennui ou ceux dans lesquels il ne se passe presque rien sont de moins en moins courants, mais sont nécessaires au repos, écrit-elle. Surstimulés en permanence, on baigne dans une surabondance d'informations de toutes sortes. Une étude de 2011 publiée dans Science révélait qu'on recevait déjà individuellement à l'époque l'équivalent de 174 journaux par jour. Paradoxalement, alors qu'il est plus important que jamais de savoir lire des textes dans toute leur complexité, on a de plus en plus de mal à se concentrer et à lire en profondeur. J'ai sursauté en lisant, par exemple, que 27 % des diplômés universitaires au Québec sont considérés comme des analphabètes fonctionnels. La statistique m'a paru effrayante. Ce qui est surtout effrayant, c'est que si on ne lit pas suffisamment, on peut désapprendre à bien lire, souligne Véronique Grenier en citant Paul Bélanger, professeur émérite au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM. Tout en explorant les paradoxes de nos vies surmenées, About n'a rien d'un guide pratique ou moralisateur pour vaincre la fatigue et ses méfaits en 10 étapes faciles. Vous n'y trouverez pas de nouvelles injonctions à faire du yoga, à fermer votre téléphone cellulaire à tout jamais ou à vous couper de l'actualité trop déprimante. La fatigue témoigne de notre porosité, constate Véronique Grenier. Dans un monde en crise, si rien ne nous stresse ni ne nous empêche de dormir, si tout nous indiffère, ce n'est pas nécessairement bon signe. J'ai peu de certitudes dans la vie, mais il me semble clair que si rien ne nous atteint, ne nous émeut ou ne nous choque, on est moins drainé. Si on peut écouter les nouvelles sans ressentir de la tristesse ou encore voir des injustices sans se laisser happer, il nous reste sans doute davantage d'énergie, mais on est alors privé du pouls de l'existence, écrit-elle. Ce n'est pas une raison pour célébrer la fatigue des jours, mais cela permet de la comprendre et de nous comprendre un peu mieux. C'était « La fatigue des jours », un texte d'opinion de Rima El-Khoury, paru le 28 décembre 2022 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Luc Mercure et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.